Europe 1.
Europe 1,
14h, 15h,
On de la traconte.
Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de quelqu'un qui est là en face de moi et qui s'appelle Christelle Rosard. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Cette histoire, vous l'avez vous-même racontée dans un livre paru il y a 5 ans chez Max Milo et le titre dit tout, J'ai survécu à la psychiatrie. Pendant 20 ans, vous avez fait des allers-retours entre l'hôpital psychiatrique sous contrainte et la liberté. Et vous vous en êtes sorti au bout de 20 ans grâce à une association qui s'appelle Advocacy, dont on parlera tout à l'heure. J'ai bâti mon récit en essayant d'être le plus fidèle possible à votre livre. J'ai choisi de vous faire entièrement confiance, alors que bien entendu, je ne suis pas psychiatre, je suis bien incapable de juger du bien fondé et du mal fondé de l'internement que vous avez subi. Et c'est aussi pour cette raison d'ailleurs que j'ai souhaité qu'un psychiatre soit là pour entendre votre histoire et réagir. Bonjour docteur Najman.
Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation.
Vous avez publié un livre qui fait écho, en quelque sorte, à celui de Christelle, « Lieu d'asile, manifeste pour une autre psychiatrie », paru chez Odile Jacob. Voici donc votre histoire, Christelle. Je l'ai écrite avec Emmanuel Denise, réalisation Céline Lebrun.
Europe 1, Christophe Ondelatte.
À quoi est-ce que ça tient, la vie ? À une phrase qu'on dit et qu'on n'aurait pas dû dire ? À un geste qu'on fait et qu'on n'aurait pas dû faire ? Et après ? Après ça enchaîne, après on paye les conséquences. C'est juste, c'est pas juste à les savoir, mais c'est comme ça. La vie de Christelle, telle que je vais vous la raconter aujourd'hui, a basculé à cause d'un geste. En 1987, Christelle, qui est en conflit avec sa mère et qui a fait une fugue, est placée dans un foyer de l'enfance, dans le sud de Paris, dans le quartier de Denfert-Rochereau. Et un jour, elle pète les plombs. Luc, un garçon du foyer, s'en prend à l'une de ses copines, fragile, vulnérable, et comme ce mec elle l'a dans le nez, elle le regarde faire, ça monte lentement mais sûrement, et à un moment donné, bim, elle se jette sur lui, une furie, elle balance les poings, les pieds, et les éducateurs débarquent. Voilà, vous arrêtez tous les deux. Je vous préviens, si ça continue, j'appelle la police. On les sépare et Christelle part en courant. Elle veut être seule. Elle n'a pas envie de parler avec les éducs. Alors pour s'isoler, elle monte sur le toit du foyer, vue sur les toits de Paris.
C'est vrai que souvent les gens pensent que quand une personne va monter sur un toit, c'est pour se jeter, mais pas forcément. Moi, ça m'a mis de la lumière en voyant ce loin. Je voyais la liberté qu'il y avait dans ce fond-là que je voyais tout au bout. Et c'est ce qui m'a dit qu'il fallait que je parte, quoi, que je me sauve. Quoi.
Partir ? Ok. Mais pour aller où ? Chez elle ? Chez sa mère ? Certainement pas. Sa mère l'a maltraitée, elle ne veut pas la voir. Donc pas chez elle. Mais où ? Bah tant pis, on part, on verra plus tard. Et Christelle descend de son toit et elle va vers sa chambre pour aller faire ses bagages et se tirer. Et elle arrive à la porte. Tiens, on l'attend. Monsieur Olivier, son éducateur, et surtout, 4 policiers. Eh oui, Monsieur Olivier a choisi de régler cette affaire en appelant la police. Il aurait très bien pu choisir de régler ça en interne, comme ça se fait la plupart du temps dans un foyer. Non, il appelle les flics pour de bonnes ou de mauvaises raisons, peu importe. C'est comme ça. Et Christelle monte dans la voiture de police. Et elle pense qu'elle va finir au poste avec une plainte pour violence. Mais ça n'est pas du tout ce qui va se passer. Pas loin de la place d'Enfer-Rochereau, à Paris, se trouve l'hôpital Sainte-Anne, le temple de la psychiatrie française. Et c'est là que les policiers la déposent. Christelle pensait se retrouver en garde à vue. Elle se retrouve assise face à un psychiatre. « Alors, jeune fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi est-ce que vous vous battez comme ça ?» Elle, en face, elle ne dit rien. Parler, ça n'a jamais été son truc. Et le psychiatre lui annonce qu'elle va être hospitalisée. « J'ai une place pour vous à Maison Blanche, c'est à Neuilly-sur-Marne, à l'est de Paris. On va vous y emmener. » Et voilà le tout début de l'histoire de Christelle.
Europe 1, on de la raconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christelle Rosard qui a écrit « J'ai survécu à la psychiatrie » aux éditions Max Milon et qui sera là tout à l'heure pour le débrief de ce récit avec un psychiatre, j'y tenais, le docteur Thierry Najman qui lui a écrit « Manifeste pour une autre psychiatrie » chez Odile Jacob. On en est au tout début de l'histoire de Christelle. À 16 ans, elle est placée en foyer parce que sa mère la maltraite. Et à la suite d'une bagarre qui l'oppose à un garçon du foyer, elle est hospitalisée en psychiatrie au centre hospitalier Maison Blanche à Neuilly-sur-Marne, à l'est de Paris. Et là, côté décor, c'est Poudlard. L'hôpital a ouvert en 1900. Il s'étend, tenez-vous bien, sur 60 hectares. 109 bâtiments de briques rouges posés côte à côte. 109, une usine. 3000 patients sont hospitalisés ici. Et Christelle échoue dans le pavillon numéro 44.
C'était vraiment tout craquelé, sombre. Enfin, c'était... Délabré complètement, ouais. Lit cloué au sol, enfin voilà, avec un petit carreau sur la porte pour que les surveillants puissent regarder si tout va bien. Et puis barreaux aux fenêtres et des carreaux, enfin voilà, c'était morbide.
Et depuis sa petite chambre, assise sur son petit lit en fer, elle voit les autres patients dans le parc.
Ça partait dans tous les sens. Puis il y en a qui levaient les bras, ils couraient ou ils criaient avec de la bave qui coulait et tout ça. Il y en a d'autres qui disaient des choses qu'on ne comprenait pas du tout. Ça se demandait où on était tombé, quoi, en gros.
Et bien entendu, dès son arrivée, Christelle se voit désigner une psychiatre, le docteur Claire. Jeune, la trentaine, brune, le visage impassible. Et en face, Christelle, butée, têtue et muette. Bon, eh bien écoutez, si vous n'avez rien à dire, je n'insiste pas. La psychiatre ne lui prescrit aucun traitement. C'est important de le noter, aucun traitement. Et Christelle, au fil des jours, finit par faire son trou dans l'hôpital. À force de n'avoir rien à faire, elle rencontre par exemple Darwin, du pavillon 41. Un garçon deux fois plus âgé qu'elle, 32 ans. Lui, il est là pour dépression nerveuse. Et comme c'est un malabar, il envoie régulièrement bouler les infirmiers. Et surtout, quand ils veulent lui faire une injection, il se met à fracasser les tables, les portes et les chaises en disant « Je change la géographie du mobilier !» Et Christelle, ça la fait marrer. Elle s'est aussi liée d'amitié avec 3-4 patients de son pavillon. Avec eux, elle joue au tarot, au scrabble. Et à ce stade, ça ressemble à une colonie de vacances. Mais au bout de quelques semaines, Christelle pète à nouveau les plombs. Une patiente en crise de délire se met à tourner autour d'elle en répétant la même phrase en boucle, totalement dénuée de sens. Elle lui demande d'arrêter, le ton monte, et tout d'un coup... Bim ! La furie est de retour. Les infirmiers déboulent et derrière, le docteur Claire, la psychiatre.
Vite ! Faites-lui une injection, il faut la calmer.
Et Christelle se retrouve avec une petite dizaine d'infirmiers sur le dos.
Du coup, je me suis débattu, donc ils ont fait appel à des renforts. Des gars gros, enfin molosses et tout ça qui venaient de la loge, des autres pavillons aux alentours. Ah ça fait flipper quoi, c'est quand on voit tous ces molosses qui essayent de nous attraper, qu'on essaye de se débattre et que c'est « je bêche ton froc et je te pique quoi, point barre ».
Et à partir de ce moment-là, Christelle est sous traitement La liste des médicaments s'allonge, lentement. Anxiolytiques, neuroleptiques, antihistaminiques, antidépresseurs. Et puis un jour comme ça, elle passe son poing à travers les carreaux du pavillon 44. Le verre lui entaille le poignet.
Ça a été, on va dire, une libération. De faire ça, là, de passer ce poignet, cette main dans ce carreau-là, ça a été un soulagement. Quand j'ai fait ça pour la première fois, je n'ai pas ressenti un mal. J'ai senti du bien, de la tranquillité. C'était mon truc, c'était devenu mon truc.
L'automutilation, c'est ça, son nouveau truc. À propos, ça fait combien de temps qu'elle est là? Elle ne sait plus trop bien. Avec les médicaments, tout se mélange. Elle n'arrive plus à se concentrer. Elle a grossi aussi. Ah, les neuroleptiques, ça ne pardonne pas. Eh bien, ça fait 2 ans qu'elle est là. Et maintenant, elle a 19 ans. Et un jour, le docteur Claire l'a fait venir dans son bureau.
Bien, Christelle. Je vois que vous êtes beaucoup plus calme depuis quelque temps. J'ai décidé de signer votre autorisation de sortie définitive.
Définitive ? Christelle n'en croit pas ses oreilles. Elle ne s'attendait pas du tout à ça.
Vous pourrez quitter Maison Blanche demain.
2 ans. 2 ans que Christelle attend ce moment. Sauf qu'il y a une réalité qui s'impose.
Mais je n'ai nulle part où aller. Ne vous inquiétez pas. Vous vous souvenez de votre éducateur, monsieur Olivier? Vous l'avez connu au foyer d'Enfer Rochereau. Il s'occupe de tout. Il vous a trouvé une chambre d'hôtel dans le 12e arrondissement. Vous continuerez à me consulter une fois par semaine au centre médico-psychologique du 19e arrondissement. Ça va comme ça?
Et le lendemain soir, Christelle se retrouve dans sa chambre d'hôtel, un peu assommée, contente d'être dehors, mais perdue aussi.
Je m'étais dit, quand je sortais, ça serait ma libération, ça serait, ça y est, je suis libre de faire ce que je veux, d'aller où je veux. Sauf que dans cet hôtel-là, ça s'est passé différemment, en fait. Et du coup, la seule chose que je pensais, c'était mon chez-moi. Et mon chez-moi, c'était quoi? C'était l'hôpital psychiatrique, parce que je connaissais que ça.
Et 4 jours après sa soi-disant sortie définitive, Christelle va frapper à la porte du centre médico-psychologique du 19e arrondissement.
Ça ne se passe pas bien à l'hôtel. Je prends pas mon traitement. Puis j'ai peur du regard des gens. Ils savent d'où je viens. Je veux me faire hospitaliser. Je veux plus être dehors.
Le centre appelle alors le docteur Claire.
C'est d'accord, Christelle. Nous acceptons de te garder à l'hôpital de nuit à 2 conditions. La première est que tu prennes tes médicaments sans rechigner. Et la seconde, que tu suives une formation.
Une formation? Pourquoi pas?
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christelle Rosa, qui a écrit « J'ai survécu à la psychiatrie » aux éditions Max Milo. Et qui sera là tout à l'heure pour débriefer ce récit avec un psychiatre, c'est important, le docteur Thierry Najman, qui a écrit, lui, « Manifeste pour une autre psychiatrie » chez Odile Jacob. À la suite d'une bagarre avec un garçon, dans le foyer où elle a été placée, Christelle est envoyée dans un hôpital psychiatrique à l'est de Paris, Maison Blanche, un hôpital-usine qui accueille plus de 3000 malades répartis dans près de 100 bâtiments. Elle y passe 2 ans avant d'être rendue à la liberté. Mais au bout de 4 jours, elle demande à réintégrer l'hôpital. Sa psychiatre pose une condition, qu'elle entame une formation. Et ce sera une formation de caissière. La journée, Christelle suit les cours et le soir, elle retourne à l'hôpital pour dormir et pour prendre son traitement. Et elle profite de cette semi-liberté pour reprendre contact avec ses frères et avec sa sœur Laetitia. Et Laetitia s'est mise en tête de lui faire rencontrer un garçon. Et un jour, au cours d'un déjeuner, elle lui en présente 2.
Tu préfères lequel ? Renaud ou Xavier ?
Elle préfère Renaud.
C'est le seul qui n'a pas été grossier. pendant le temps du repas. Renaud est un jeune boucher de 27 ans. Costaud, rassurant, elle lui raconte toute son histoire. Elle ne lui cache rien. Et lui, il est soucieux, il est attentif. Christelle a enfin trouvé une épaule sur laquelle s'appuyer. Ils sont amoureux. Et il lui propose de venir vivre avec lui, chez lui. Tout va bien. Elle a 19 ans, un petit ami, un toit au-dessus de la tête et une promesse d'embauche chez le patron du supermarché chez qui elle fait son stage. Tout va bien. Et un jour, elle dit ça à sa psychiatre. Et la réponse du docteur Claire la cloue sur place. Je vois bien que vous allez bien, Christelle. Mais je crains de devoir vous hospitaliser. Comment ça? Vous allez m'hospitaliser? Mais je veux pas. Il n'y a pas de raison. Je travaille, tout se passe bien. Pourquoi vous voulez faire ça? Vous êtes énervée, vous êtes très tendue, Christelle. Vous voyez bien comment vous réagissez. Mais enfin, je réagis mal parce que c'est injuste. J'ai un boulot, j'ai un petit ami, je suis mon traitement. Vous n'avez aucune raison de m'hospitaliser. Vous n'avez pas le choix, Christelle. Et pendant 3 mois, Christelle se retrouve à nouveau hospitalisée à plein temps à Maison-Blanche, dans une chambre à l'isolement, assommée par les médicaments. Et puis au bout de 3 mois, elle sort. Et elle file tout de suite au supermarché pour essayer de récupérer son travail. Et évidemment, le patron l'envoie bouler. Et toutes les conditions sont réunies pour une rechute. Et évidemment, avec Renaud, ça se dégrade. Et maintenant, c'est lui qui va voir le docteur Claire pour la faire hospitaliser. Et un jour, il la met dehors. Elle retrouve toutes ses affaires sur le palier. Et elle se retrouve à la rue pendant 6 jours. Elle erre dehors sous la pluie. Et puis, elle finit par frapper à la porte du centre médico-psychologique du 19e arrondissement. Et elle se retrouve à l'hôpital Maison-Blanche. Elle a 21 ans. Et je ne vais pas vous raconter les 18 années qui suivent, parce que c'est la même histoire qui va se jouer pendant 18 ans. Un coup dedans, un coup dehors. Pendant toutes ces années, il n'y a que le numéro du bâtiment de Maison-Blanche qui change. Le pavillon 44 a été détruit. Elle découvre le numéro 64 et puis le numéro 43. Une alternance de séjours plus ou moins volontaires et des stages qui ne mènent à rien. Et nous voici en 2009. Christelle a maintenant 36 ans. Toutes ses tentatives pour sortir de la psychiatrie se sont soldées par des échecs.
J'avais plus goût à rien, bah, je voyais plus rien. Chaque fois que je montrais un effort, c'est démoli, c'est foutu pour moi, quoi. Je suis catégorisé ça, enfin, je suis ça, mais je peux pas être autre chose.
Et un jour, un peu imbibée, elle se rend au centre d'accueil thérapeutique à temps partiel. Comme elle est bourrée, on la refoule. Et là, réapparaît la Christelle des premiers jours. Bim, les tables, les chaises, une furie. Et qui voilà? La police. Les flics la maîtrisent et qu'est-ce qu'ils font? Ils l'emmènent à l'hôpital Sainte-Anne et c'est reparti comme en 40. L'argactyl 100 mg, 3 fois par jour, c'est un neuroleptique. Analfrine, lepticure, théralène, noctran, avec des effets secondaires, comme toujours. Tachycardie, somnolence, la vue qui se trouble, la mémoire qui chancelle, des problèmes de concentration et cette fichue prise de poids. Et puis elle ressort, bien sûr, le 26 août 2009. Et elle va frapper, sans trop y croire, à la porte d'une association dont on lui parle depuis des années, Advocacy. Et là, surprise.
Bah Alice ? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon Alice ? Bah Christelle ? Comment ça va, Christelle ?
Alice est une ancienne patiente de Maison-Blanche. Elles ont été internées dans le même pavillon dans les années 80.
Et elle aussi, elle était suivie par le docteur Claire. Et elle est causante, elle est épanouie, elle est souriante.
Tu sais, je fais partie de l'association Advocacy, je suis même la présidente. C'est une association qui vient en aide aux usagers de la psychiatrie, comme toi. Le but, c'est qu'on puisse s'auto-gérer, et puis qu'on participe, et qu'on retrouve notre autonomie, tu vois.
Après 20 années de psychiatrie, Christelle vient enfin de trouver une bouée de secours.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de Christelle Rosard qui a écrit « J'ai survécu à la psychiatrie » aux éditions Max Milo. Christelle a passé 20 ans à faire des allers-retours en hôpital psychiatrique. Et elle sera là tout à l'heure pour débriefer son récit avec un psychiatre, j'y tenais beaucoup, le docteur Thierry Nagemann, qui a écrit « Manifeste pour une autre psychiatrie » chez Odile Jacob. Nous en étions, après 20 ans de désespoir, au moment où Christelle tombe sur une association, Advocacy, qui vient en aide aux usagers de la psychiatrie. Et là, elle va découvrir qu'elle a un droit dont elle n'a jamais fait usage. C'est Marie-Claude, l'une des formatrices de l'association, qui lui fait cette révélation.
T'as déjà consulté ton dossier psychiatrique ?
Ben non. Pourquoi ?
Ah mais tu sais que tu peux le demander ?
Christelle ne savait pas. Pour elle, le dossier, c'était juste un objet mystérieux que les psychiatres ouvraient, griffonnaient, puis refermaient. Elle ne pensait pas qu'elle avait le droit de le lire. Alors elle le demande, bien sûr. Ça prend un peu de temps, quelques mois. Et puis le dossier arrive enfin. C'est un pavé, des centaines de pages qui racontent 20 ans de sa vie. Tous les incidents, toutes les prescriptions, tous les internements sont consignés les uns derrière les autres. Et enfin, après 20 ans d'internement, elle prend connaissance du diagnostic. Trouble grave du comportement et de la personnalité lié à une carence affective précoce. Mais en 20 ans, on ne lui a jamais proposé de psychothérapie. Une ou deux fois, elle a demandé. On le lui a refusé. Pendant 20 ans, on ne lui a prescrit rien d'autre que des médicaments. Alors qu'est-ce qu'elle fait ? Elle prend son dossier et elle va voir sa psychiatre, le docteur Claire. Elle la veut, sa psychothérapie.
Mais Christelle, une psychothérapie n'est pas nécessaire, vu votre comportement. Ben justement, si c'est mon comportement le problème, faudrait une psychothérapie. Vous n'en avez pas besoin. C'est un comportement violent qu'il faut traiter. Le traitement est très bien, je suis psychiatre, je sais ce qu'il vous faut. Mais si j'ai un comportement violent, comme vous dites, il faudrait chercher pourquoi. Et la psychothérapie serait au contraire nécessaire.
Non, Christelle. Je traite d'abord votre comportement. Je vais vous faire une ordonnance, d'accord? Et puis on se voit dans une semaine. Elle ne l'aura pas, sa psychothérapie. Mais l'association Advocacy, par son écoute, va lui tenir lieu de thérapie. Mieux que ça, elle va lui offrir une chance. De 2009 à 2010, Christelle est embauchée pour répondre aux appels que reçoit Advocacy.
Oui, allô, bonjour.
Allô, bonjour. J'appelle de province. Voilà, j'ai un problème avec mon fils. Il s'est fait agresser, et puis il est allé porter plainte tout seul à la gendarmerie, mais comme il est reconnu malade psychique, les gendarmes ont refusé de prendre sa plainte.
Ah mais votre fils devrait appeler un psychiatre pour lui demander un certificat qui indique que sa plainte est recevable. Et on peut aussi vous aider à écrire directement au procureur de la République.
Et grâce à tous ces appels et aux conseils qu'elle donne, Christelle parvient à prendre du recul. C'était il y a 8 ans. Et depuis, Christelle ne s'est jamais plus mutilée. Elle n'a jamais refait de crise. Elle s'est guérie de son agressivité.
Je suis une survivante comme beaucoup d'autres. C'est des trucs... Parce que, en fait, cette psychiatrie, elle est puissante. Face à cette puissance, les personnes pensent qu'il n'y a pas d'espoir, il n'y a rien. Mais si, il y en a. Il y en a. C'est difficile, c'est clair. Mais c'est petit à petit qu'on monte les marches. Petit à petit. Les marches, on les construit une par une.
Europe 1. Ondelat raconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christelle Rosard, tirée du livre qu'elle a publié il y a 5 ans, « J'ai survécu à la psychiatrie » aux éditions Max Milo. Le récit de 20 années qu'elle a passé en grande partie à l'hôpital psychiatrique, avant de s'en sortir grâce à une association d'usagers de la santé mentale qui s'appelle Advocacy. Vous êtes là bien sûr Christelle Rosard pour le débrief de votre histoire. Et j'ai souhaité qu'un psychiatre soit là aussi. Je l'ai choisi plutôt dans votre veine. Le docteur Thierry Nagemann exerce dans un hôpital psychiatrique de la région parisienne et a publié un ouvrage qui s'appelle Lieu d'asile 2. Manifeste pour une autre psychiatrie aux éditions Odile Jacob. C'est donc quelqu'un qui est ouvert à une autre manière d'exercer la psychiatrie que celle au fond qui a été exercée tout au long de ces 20 années. Je voudrais qu'on en vienne à la scène fondatrice parce qu'au fond tout part de là. On est dans ce foyer près de d'Enfer Rochereau. Vous vous bagarrez avec un autre adolescent. Vous avez 16 ans. Moi, je ne sais pas, et vous ne le racontez pas dans votre livre, si à ce moment-là, il y a un passif, s'il y a un passé, si vous avez déjà vu des psychiatres, si quelque chose est en marche qui vous amène à être hospitalisé ce jour-là à l'hôpital Sainte-Anne à Paris. Est-ce que c'est le cas? Ou est-ce que c'est vraiment la première fois qu'il y a un problème dans ce foyer?
Non, enfin, je veux dire, c'est la première fois que j'ai rencontré des psychiatres. J'en avais jamais vu auparavant. Hein.
Ni
jamais,
psychologue
jamais. Une psychologue, mais il y a pas mal de temps, mais je ne suis jamais retourné. J'ai eu un entretien avec elle et je suis reparti, quoi.
L'éducateur en question, là, ce monsieur Olivier, il réglait ses problèmes comme ça en appelant la police? Parce que c'est étonnant, ça, comme choix. Donc moi, je regarde ça avec...
Il faudra lui poser la question à lui.
Avec des pincettes. Un problème dans un foyer,
ouais.
Ça se règle en général en tête-à-tête dans un bureau.
Bah, quel adolescent ne se bagarre pas et quel adulte ne se bagarre pas aujourd'hui? Si on devait hospitaliser toutes les personnes qui étaient en train de se bagarrer, bah, y aurait plus personne dans les rues.
Ce que vous pensez, vous, c'est que si à ce moment-là, on ne vous envoie pas à Sainte-Anne, il n'y a pas les 20 ans qui suivent?
Autrement?
Oui.
Autrement, j'aurais peut-être... Alors, je ne peux pas prédire l'avenir en marche arrière, ouais, de ce qui se serait passé, mais peut-être que je ne sais pas ce qui se serait passé. Oui, non, je ne peux pas répondre à cette question. C'est assez compliqué.
Docteur Nagemann, ça, c'est une question intéressante. Est-ce qu'on peut envisager l'hypothèse que parce que quelqu'un est amené aux urgences de Sainte-Anne par la police, il est forcément hospitalisé et qu'on rentre là dans un engrenage inutile? Est-ce que c'est possible avec le système actuel? Ou est-ce que les urgences sont capables de dire « pardon, mais c'est pas là qu'il faut que vous soyez ».
C'est-à-dire que ce que l'on peut constater, c'est qu'il y a statistiquement de plus en plus d'hospitalisations et de plus en plus d'hospitalisations sous la contrainte. Et je crois qu'il y a lieu de s'interroger... Au-delà, si on essaye de prendre un peu de recul par rapport à l'histoire particulière de Christelle, il y a lieu de s'interroger sur un fait objectif, qui est que depuis une trentaine d'années, à peu près, dans un pays comme le nôtre, le nombre d'admissions en hospitalisation sous la contrainte augmente chaque année. Et je crois que...
La statistique,
si vous voulez,
est certaine. Il y a de plus en plus d'enfermements en France.
Avec certitude, on peut dire qu'il y a de plus en plus d'enfermements et que les moyens de contrainte qui sont utilisés sont en augmentation permanente en France. Il n'y a aucun doute à ce sujet.
Christelle, c'est le point de basculement. Cette hospitalisation, cette première hospitalisation, vous, quand vous revisitez cette histoire, vous vous dites, si je n'avais pas été hospitalisé ce jour-là, à Sainte-Anne, puis à Maison-Blanche, ma vie aurait été différente. Ah, vous êtes sûr de ça?
Oui. Moi, je le dirais oui, parce que du coup, j'aurais pas connu peut-être ce système dévastateur.
Parce qu'il y a une séquence, évidemment, qui suit dans le récit, c'est qu'à Maison-Blanche, vous n'avez pas de traitement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant, parce que dès le départ, il y a l'hypothèse que vous n'en avez pas besoin. Mais néanmoins, vous allez répéter une crise agressive, importante, qui va entraîner la prescription d'un traitement.
C'est une bagarre, c'est... Je veux dire, c'est comme je disais tout à l'heure, tout le monde se bagarre.
Non.
Bah si.
Pas moi, jamais.
Ouais, bien
je
sûr.
Vous jure.
Bah oui.
bien sûr. Non. Même en étant adolescent.
Non.
Si, si. Non, moi, ce que je veux dire, c'est que, en plus du fait de cette nouvelle loi là, il y a deux certificats médicaux qui sont donnés et les personnes peuvent être hospitalisées jusqu'à même être sous contrainte de soins chez elles. Et si elles obéissent pas, elles se font enfermer en psy, quoi.
Docteur.
Oui, peut-être un autre élément qui permettrait de nourrir un peu notre réflexion. Plusieurs observateurs et un certain nombre d'autorités très officielles ont pu constater qu'il y a une grande hétérogénéité des pratiques dans la psychiatrie hospitalière française. Et je crois que cet élément est de nature un petit peu à éclairer le propos de Christelle. Comment se fait-il que... On peut lire, par exemple, les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté qui, tous les ans, publie un rapport sur les lieux d'enfermement. On peut s'intéresser au rapport qui a été rédigé par le député Denis Robiliard relativement récemment. Et tous ces rapports insistent sur l'hétérogénéité des pratiques. Comment se fait-il que, dans des proportions très importantes, on puisse observer des différences de pratiques en termes d'isolement, en termes de fermeture des portes, en termes d'usage des contentions, en termes d'usage des psychotropes
Selon les hôpitaux.
Selon les hôpitaux et parfois à l'intérieur d'un même hôpital,
d'un
en fonction
service
des services.
C'est quelque chose dont on va reparler après cette pause, car il y a toutes sortes de psychiatres. Et tous les psychiatres n'exercent pas de la même manière. Vous êtes psychiatre et psychanalyste. Le docteur Claire n'était pas psychanalyste et pas psychothérapeute. Et ainsi se fait la différence. Après la pub.
Europe 1, on de la traconte.
Je vous ai raconté aujourd'hui l'histoire de Christelle Rosard, tirée du livre qu'elle a publié il y a 5 ans, « J'ai survécu à la psychiatrie » aux éditions Max Milo, le récit de 20 années qu'elle a passé en hôpital psychiatrique, avec des sorties de temps en temps, puis des hospitalisations sous contrainte. Et elle s'est sortie de cette histoire grâce à une association dont il faut absolument qu'on dise un mot dans un instant, qui est Advocacy, qui est une association d'usagers de la santé mentale. J'ai souhaité qu'un psychiatre soit là. Le docteur Thierry Nagemann a écrit « Lieu d'asile manifeste pour une autre psychiatrie » aux éditions Odile Jacob. Je vous demanderai, docteur, de répondre très précisément à ma question. Sortons du cas précis de Christelle, parce qu'on va pas faire de la psychiatrie de comptoir ici, c'est un métier plus sérieux que cela. Néanmoins, quelqu'un qui est diagnostiqué pour des problèmes de carence affective précoce et qui se traduisent par une agressivité hétérogène, donc à l'égard des autres. Est-ce que cette personne doit ou pas subir une psychothérapie? La psychiatre qui a suivi Christelle ne l'a pas jugée utile. Vous-même, en théorie, vous la jugeriez utile ou pas?
Votre question est très importante et je répondrai clairement que il y a toujours, à mon avis, une dimension psychothérapique
dans toutes les pathologies.
Mais je veux dire, cela dépend de la conception que l'on a de la maladie mentale et de la conception que l'on se fait des métiers de la psychiatrie. Mais dans le cas de figure, dans l'hypothèse où l'on considère que ce sont des maladies purement biologiques, et je dois dire que la psychiatrie est en train de dériver actuellement
vers ça,
dans cette direction, dans une conception très caricaturale. Il ne s'agit pas de mettre dos à dos les différentes conceptions, on est dans un domaine complexe, mais je veux dire que si on part de l'hypothèse qu'un certain nombre de problématiques sont purement biologiques, alors on risque progressivement d'aller vers des dérives de plus en plus graves et vers une restriction des libertés de plus en plus importante, et il faudra assumer les conséquences très graves, comme on l'observe actuellement, d'ailleurs dans l'actualité, régulièrement.
Christelle Rosard, vous n'avez donc pas fait de psychothérapie, ainsi est votre histoire, mais vous avez fait votre thérapie à votre manière, oui, avec cette association Advocacy. Ça s'est passé comment ?
Bah, j'y étais le lendemain matin quand je demandais à une personne qui faisait que de dormir chez moi et que j'avais hébergé d'aller faire un tour parce que j'en avais marre. Et du coup, comme j'arrivais pas à avoir les réponses, à savoir ce qu'elle faisait dans ce lieu, je me suis dit je vais y aller moi-même, je vais me rendre compte par moi-même quoi en fait. Et du coup, j'y étais. Et petit à petit, des jours qui passaient, j'y étais toujours.
Et c'est en parlant que s'est fait votre thérapie.
Voilà, en parlant aussi en faisant tout ce qui s'y passait dans le lieu, aussi bien les activités que les événements. Donc c'est vrai qu'au départ, j'allais pas forcément à des événements comme France Dépression qui était à l'époque, où je disais que c'était pas pour moi.
Mais c'est en parlant au fond avec des gens qui ont vécu la même chose que vous.
avec les personnes qui ont vécu, puis avec aussi d'autres personnes qui ils étaient là aussi pour écouter, et on a peut-être un handicap quelconque, mais voilà, ça ne doit pas nous empêcher de vivre, ça ne doit pas nous empêcher d'avancer et de relever, de se relever, et puis d'aller de l'avant, quoi, parce qu'il
y a un résultat concret avec votre histoire, c'est pour ça qu'elle est intéressante. Ça fait donc maintenant plus de 10 ans, 12 ans que vous êtes sorti de cet enfer.
Oui.
Depuis 12 ans, vous n'avez pas rechuté?
Non.
Jamais? Non. Jamais de bagarre?
Non, pas de la bagarre.
Vous ne prenez plus du tout de traitement psychiatrique? Aucun.
Aucun.
Vous pensez donc que vous êtes la preuve que vous pouviez vous en sortir sans neuroleptique?
Oui.
Vous le dites comme ça?
Bah oui, je le dis.
Est-ce que vous l'acceptez, ça, docteur? Vous 12 savez... ans sans rechute. Quelqu'un qui a passé 20 ans en hôpital psychiatrique. Oui. Est-ce qu'on n'a pas la preuve matérielle que les neuroleptiques étaient inutiles pour Christine?
Je crois pas qu'on puisse tirer cette conclusion, mais une fois de plus, je me permettrai pas de porter un jugement dans le cas particulier de Christelle. Maintenant, Christelle aurait pu être accompagnée d'une façon différente par un certain nombre de personnes de bonne volonté? Ça n'est pas impossible. Qui peut le dire?
Merci à tous les deux. C'est allé trop vite. Qu'est-ce que vous voulez dire, Christelle?
Je voulais rajouter une autre chose. En fait, on a cru en moi. Et moi, j'ai fini par croire aussi en moi. Et en mes capacités. Ça, c'est important.
Merci beaucoup. Pardon de devoir mettre un terme à cette discussion qui était passionnante, mais ainsi sont les contraintes de l'horaire. Votre livre s'appelle « J'ai survécu à la psychiatrie », Christelle, il a été publié chez Max Milo. Le vôtre, docteur Najman, s'appelle « Lieu d'asile, manifeste pour une autre psychiatrie ». Il est publié chez Odile Jacob.